Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
C'est drôle que tu n'aies pas oublié depuis 5 ans. Premier mot du Lit des fées de Françoise Sagan et premier mot d'un poème d'Éluard qui donne son titre à ce roman comme Bonjour Tristesse. Face au rideau, le lit des fées vivant et nu. On écoute l'écrivain dans l'émission Un livre, des voix sur France Culture, diffusée le 2 mai 1977.
Il y eut après la Première Guerre mondiale des romanciers du couple. André Mauroy avec Climat, Jacques Chardonne, Epitala Méclair, Paul Morand, Lewis et Irène furent les plus célèbres. À l'intérieur des liens du mariage, car à l'époque on admettait difficilement que les romans mettent en évidence l'adultère, le romancier du couple montrait tous les aspects de la passion, la peur de la solitude, la confiance dans la vie et dans la famille, les épreuves qui précédaient et parfois décidaient du mariage, et après, dans la vie à deux, l'impossibilité de passer au régime d'équilibre et de s'y tenir, l'impossibilité aussi d'en sortir. C'était l'instabilité dans le stable, la vie à l'état d'incandescence. C'est ce duo exigeant que Françoise Sagan réunit dans son nouveau roman qui a pour titre « Le lit des fées ». Le lit des fées, c'est bien sûr la passion physique, le lit où deux êtres très différents se retrouvent, mais c'est aussi une citation de Paul Éluard, comme « Bonjour Tristesse » d'ailleurs. Face au rideau apprêté, le lit des fées vivant et nu, redoutable oriflamme, son vol tranchant éteint les jours, franchit les nuits. Redoutable oriflamme, contrée presque déserte, presque, cartaillée de toutes pièces pour le sommeil, tué debout auprès du lit. Le lit des fées, c'est le duo difficile d'un couple. Ce couple s'est connu 5 ans avant que ne commence leur vraie passion. Il s'est perdu de vue et quand lui, Édouard Malligras, retrouve Béatrice Valmont, il a brusquement le sentiment que toute sa vie a été réglée pour la retrouver. Elle est comédienne, il est devenu auteur dramatique par imitation, par amour pour elle. Les rapports qui s'établissent entre eux sont ceux de la victime et du bourreau. Édouard, en effet, est charmant et tendre avec un air affamé. Il veut aimer et être aimé. Béatrice est violente et désarmée, violente car elle vit pour son métier. Elle a identifié sa féminité à son métier et la mobilise dans sa vie professionnelle. C'est-à-dire qu'elle n'a gardé de sa féminité que les côtés pleins de rouerie, une duplicité mêlant l'astuce et la séduction. Mais Béatrice a gardé aussi une partie pure, désintéressée en elle. Comme l'écrit Françoise Sagan, Béatrice n'est pas snob dans son corps. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à prendre ses amants parmi les illustres, mais aime tous ceux qui lui plaisent, quoi qu'il fasse dans la vie. Comment Béatrice, active, instable, provocante, c'est-à-dire le contraire d'une amante, va être convaincue, convertie à la passion, par l'attachement que lui porte Édouard? Comment les rapports de dépendance qui s'établissent toujours dans un couple vont bientôt basculer d'Édouard vers Béatrice? Béatrice qui s'attache le plus à Édouard au moment où, logiquement, elle devrait le quitter puisqu'elle l'a trompé, c'est tout l'art de Françoise Sagan de nous raconter ce transfert insensiblement. Édouard a aimé Béatrice car elle représentait une vie brillante qui jusque-là lui avait été refusée. Béatrice s'est attachée à Édouard car elle avait conscience du mal qu'elle pouvait lui faire et bientôt tout cet arrière-plan s'efface dans la seule force commune de la passion.
Je pense, Françoise Sagan, qu'il faut être un petit peu téméraire et ne pas craindre le ridicule pour vous poser pour la énième fois la même question qu'on vous a posée. Est-ce que vous êtes définitivement installé dans ce milieu artistique où vos héros vivent, ou est-ce que vous le quitterez un jour?
Vous voulez dire que ce fameux petit monde séganesque, la
c'est
vie dorée,
le petit monde.
J'y suis définitivement installée, et de plus en plus, parce que c'est une question qu'on me pose depuis 20 ans, qui m'a d'abord troublée, que je me suis défendue plusieurs fois, et maintenant j'ai l'intention d'ailleurs...
Qui vous agace maintenant?
Oui, j'ai l'intention pratiquement de ne plus y répondre, parce que c'est fait 20 fois que j'explique les mêmes... En fait, j'ai l'impression que les journalistes intervieweurs sont beaucoup plus stables qu'on imagine. Ils n'arrivent pas à penser que les Français moyens, ou les gens simples, qui sont toujours des termes péjoratifs, ou le peuple, qui prennent toujours aussi de manière bizarrement assez péjorative, les gens ont absolument les mêmes réflexes, les mêmes lassitudes, les mêmes nonchalances, les mêmes dégoûts que les gens qui ont les moyens apparemment suffisants pour oublier la vie matérielle. Oui. Je crois que la nostalgie, l'ennui, ce fameux ennui qu'on croit réserver à la bourgeoisie.
C'est un privilège alors?
Non, mais pour, c'est pas du tout un privilège, c'est un sentiment absolument commun à tout le monde. Et je crois qu'une femme qui est amoureuse d'un ouvrier spécialisé a absolument les mêmes problèmes sentimentaux que ce qu'on appelle une mondaine. Et j'ai toujours pensé, j'ai souvent vérifié d'après le lecture des gens dits simples qui m'écrivent, les gens s'assimilent parfaitement et sans la moindre difficulté à ces héros, soi-disant, hors du temps, hors du siècle et hors du monde.
Vous croyez que ce qu'on vous reproche, c'est, ce qu'on vous reprocherait dans certains cas, c'est de penser que seul, dans un certain monde, on peut éprouver de certains sentiments?
Non, justement, moi je pense que les sentiments sont absolument les mêmes partout.
Oui.
Mais ce qu'on me reproche, c'est de décrire un monde où les sentiments seraient absolument différents de ceux éprouvés par le vulgum picus, et que par conséquent, mes livres seraient réservés à une sorte de décrire qu'un milieu privilégié. Or, je crois que ça décrit exactement les sentiments de tout le monde. Et que... Bien, le snobisme n'est pas moi, le snobisme est chez les gens qui font une différence entre les sentiments éprouvés par une femme aisée et les sentiments éprouvés par une femme fauchée. Mais pour cette histoire de petit milieu privilégié, j'ai trouvé par miracle une formule que je trouvais idéale dans Proust récemment, et j'aurais bien aimé la savoir il y a 20 ans pour la réciter automatiquement dès qu'on me posait cette question.
Non, vous pourriez le faire maintenant, alors.
Ah ben ça, volontiers. Ça ne vous ennuie pas?
Ah, pas du tout.
Mais
vous avez trouvé un avocat...
Un avocat parfait. Mais je lis assez mal. L'idée d'un art populaire comme d'un art patriotique, même s'il n'avait pas été dangereuse, me semblait ridicule. S'il s'agissait de le rendre accessible au peuple en sacrifiant les raffinements de la forme bon pour des oisifs, j'avais assez fréquenté des gens du monde pour savoir que ce sont eux les véritables illettrés et non pas les ouvriers électriciens. À cet égard, un art populaire par la forme eût été destiné plutôt aux membres du jockey qu'à ceux de la CGT. Quant au sujet, les romans populaires ennuient autant les gens du peuple que les enfants ces livres qui sont écrits pour eux. On cherche à se dépayser en lisant, et les ouvriers sont aussi curieux des princes que les princes des ouvriers. Et ça me paraît une vérité absolument profonde.
Oui.
Je crois que ni Proust ni Racine étaient des gens snobs dans l'âme ni rien, mais que simplement ils savaient que les sentiments étaient absolument identiques chez n'importe quel être humain, la jalousie, le goût de possession, la solitude, l'abandon, et que il est situé dans un milieu dit romanesque, parce que cela n'avait aucune importance.
Oui. Non, parce que ce qui est frappant dans ce que dit Proust, je reviens un peu à ce que vous avez lu tout à l'heure, ce que je trouve très frappant, c'est que, en fait, si j'ai bien compris, Proust dit presque un ouvrier spécialisé est probablement plus capable d'éprouver un sentiment complexe et intéressant qu'un homme du monde, mais c'est moins intéressant à raconter.
Mais c'est... Oui, c'est, non, il ne dit pas que comme ça, il dit c'est... c'est pas moins intéressant d'un côté, mais c'est moins intéressant, même pour l'ouvrier en question, de lire.
Qu'on le lui raconte,
parce que ça le remet dans un milieu, un mode de vie qu'il subit toute la journée, et donc il n'a vraiment pas envie d'entendre parler ni en éloge, ni en, comment dire, ni en blâme. Mmh. On donne volontiers aux gens une idée misérable d'eux-mêmes à l'heure actuelle. Et je, personnellement, je suis un petit peu indignée. Parce que je crois que les Français sont, voilà, les gens intelligents, vifs, imaginatifs, etc. Et qu'on ne doit pas les cantonner, justement, à cette notion de peuple. Il n'y a pas de peuple. Il y a un homme, une femme, un enfant, dans un milieu plus ou moins riche. Mais personne ne se reconnaît sous le nom de peuple. Il n'y a pas une personne.
Mais est-ce que vous ne pensez pas particulièrement au roman et à la littérature en disant cela, parce que je pense que à cet égard-là, le cinéma a un petit peu modifié les choses, puisque ce que vous dites est vrai en littérature, mais en cinéma, il y a quand même quelques grands chefs-d'œuvre de films d'amour qui se passent, eux, alors dans des milieux, au contraire, que simples, pauvres, déshérités, démunis, et qui n'ont que la force de l'amour comme force de vie.
Oui, parce que le cinéma est un art... En soi-même romanesque, les images sont romanesques, voilà. Les images sont belles, on montre pas ce que dans un film, même misérabiliste, je pense à De Sica, etc., au film, on montre pas ce que voit une femme, elle voit des paquets, les machins de vaisselle à laver, des tas de linge, etc. On montre une maison délabrée sur un ciel pur, ou sur un ciel sinistre. Et l'esthétique en elle-même...
La sublimation se fait plus facilement par l'image.
Oui, bien entendu.
Oui, oui.
Édouard travaillait beaucoup et sa pièce commençait à résonner en lui par moments comme une chose ayant une existence propre. Un soir où il s'était senti spécialement inspiré et où il avait bu quelques portos avec Béatrice dans le jardin, il essaya de lui en lire un passage. Naturellement, au lieu du premier acte, il voulut commencer par ce qu'il avait écrit dans l'après-midi et qui lui semblait donc le plus brillant. Et Béatrice, introduite brutalement dans la compagnie de héros dont elle ignorait tout, ne put que s'embrouiller, s'énerver et finalement s'ennuyer d'une manière ostensible. Édouard, dont la voix baissait à mesure qu'il se sentait délaissé, s'exaspéra d'un coup et dans un geste dramatique se leva, déchira ses pages et les jeta aux pieds de Béatrice stupéfaite. « Tu as raison, dit-il, tu as raison, ça ne vaut rien !» Il rentra dans la maison et se jeta sur le lit. Son premier souci, une fois la colère tombée, fut de reconstituer dans sa tête la scène qu'il venait de déchirer. Dieu merci, il se la rappelait pratiquement par cœur. Et Dieu merci, il avait dû en garder un brouillon quelque part dans un tiroir. Il éprouva un sentiment de soulagement immense. Le principal était là, son texte. L'approbation de Béatrice lui semblait tout à coup secondaire. D'ailleurs, c'était bien sa faute. Il n'aurait pas dû lui jeter à la tête la tirade de Frédéric contre sa mère sans lui expliquer le motif de cette tirade. Personne, même les critiques les plus partiaux, n'aurait apprécié la violence qu'il espérait y avoir mise. Seulement maintenant, il aurait à vaincre une réticence chez Béatrice lorsqu'il essayerait à nouveau de lui lire sa pièce. A priori, par rapport à ce texte comme par rapport à lui-même, elle se méfierait de l'ennui. Est-ce qu'elle s'ennuyait avec lui? Édouard était lui-même si loin de la notion d'ennui, chaque instant lui paraissait si fragile et si intense qu'il n'avait jamais songé à se demander ce que Béatrice, qui, elle, tenait les rênes du destin, pensait de leur solitude à deux. Peut-être le trouvait-elle un peu plat, fade, en dehors de l'amour. Et peut-être cette impression de tendresse et de rire partagé n'existait-elle que pour lui. Il était bien possible, en effet, qu'elle s'ennuyât. Si un condamné à mort ne s'ennuie jamais, peut-être le bourreau bâille-t-il, lui, avant de se décider. Le bourreau rentra dans sa chambre, l'air grave, et s'assit au pied du lit. Elle avait la main cachée derrière son dos. « Excuse-moi, dit Édouard, j'étais ridicule. »« Mais très amusant, dit Béatrice. » L'auteur vexé déchirant son manuscrit et le jetant à la tête d'un auditoire obtus. « Je ne savais pas si susceptible. » Non, dit Édouard faiblement. C'est que j'ai compris que c'était mauvais en le lisant. Béatrice le coupa. Ce n'est pas parce que c'était mauvais, mais c'est parce que tu lis très mal, mon pauvre Édouard. La prochaine fois, tu me donneras ta pièce à lire, toute seule. Tiens. Elle ramena la main vers lui et lui tendit les feuilles reconstituées. Il avait fait un savant puzzle avec du papier collant. Voilà ton œuvre, dit-elle. Je ne supporte pas qu'on détruise ce qu'on a fait par colère. C'est précieux, quelqu'un qui invente des gens, des idées. Tu n'as pas le droit de faire ce genre de gestes. Et puis c'est ridicule. Elle lui parlait comme à un enfant. Et elle avait l'air triste tout à coup et un peu lasse. Édouard avait envie de s'excuser, de se plaindre et de la plaindre. Mais il ne savait pas trop de quoi. Il se pencha et posa la tête sur l'épaule de Béatrice. Elle mit la main sur sa nuque et lui caressa les cheveux. Il restait immobile, engourdi. Chacun d'eux savait que l'autre suivait des pensées différentes. Chacun d'eux s'y résignait obscurément. Ils étaient l'un contre l'autre comme deux chevaux fatigués. Et pour une fois, le désir ne se levait pas entre eux, violent et précis comme une panique. Pour une fois, leurs deux corps se touchaient en dehors de toute sensualité, naissante ou repue. Enfin, ils éprouvaient un sentiment semblable. Mais ce n'était que la mélancolie.
En fait, des scènes, Béatrice et Édouard se disputent sur un propos ou sur un autre, il y en a quand même, comme dans toutes les histoires d'amour, dans toutes les liaisons entre deux personnes intelligentes, sensibles, enfin qui ont des qualités complémentaires et opposées, il y a des frictions, il y a des scènes comme ça. Mais alors, il y a, tout au long du livre, il y a une question que je me suis posée. Vos personnages, jusqu'à quel point pouvez-vous être objectif vis-à-vis d'eux et à quel moment est-ce qu'il y a une, de votre part une espèce d'intrusion de vous à l'intérieur d'eux?
Il y a deux choses. D'une part, on part sur une image. L'image, c'est cet homme qui retrouve cette femme, comme on retrouve un porc. Bon. Et puis, il y a deux schémas qu'on a dans la tête d'un homme amoureux et d'une femme qui est inflexible. Puis peu à peu, les choses se modifient presque à votre insu. Et les gens changent. Et Béatrice, je n'aimais pas du tout. Puis j'ai fini par la trouver sympathique et par lui donner par moments plus de chaleur, plus de poids que je l'avais prévu. Il y a ça.
Oui.
Et puis il y a aussi le fait que par moments, dans le cas d'Edouard, qui est un écrivain, c'est un sujet que j'avais jamais osé aborder, ça me paraissait mille fois plus impudique que de raconter des histoires, purement d'amour physique. Le truc de la création, la chose de la création, les complications, enfin le bonheur, les horreurs de la création, pour la première fois, j'ai essayé d'en parler.
Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que vis-à-vis de vos personnages, vous avez l'air d'avoir quand même beaucoup de pudeur et que peut-être il y a un seuil au-delà duquel vous ne voulez pas aller plus loin dans leur description, parce que ce serait presque leur faire violence. Enfin, je veux dire que vous restez au seuil de quelque chose par rapport à eux. Par exemple, ils n'ont pas d'ascendance, ils n'ont pas de descendance. Enfin, je dis ça, je veux dire, ils n'ont pas de comportement politique ni métaphysique. Enfin, ils ont tout ça. Mais je veux dire que vous êtes très discrète sur d'où ils viennent et où ils vont. C'est le moment où ils sont qui est le plus important.
Oui, parce que c'est une histoire d'amour. Alors, on a toujours une histoire d'amour absolument romanesque. Donc, le sujet, c'est l'amour. Et puis, tout ce qui peut s'interférer dans leur amour, compliquer les choses qui viennent de l'extérieur ou qui viennent d'eux-mêmes, est mon propos. Mais oui. D'où ils viennent, ce qu'ils pensent, il est évident que politiquement, Edouard a énormément de points fixes, nets. Simplement, je déteste les. Au passage, c'est donner une espèce de petit certificat de bonne moralité en disant je suis contre la guerre au Vietnam, ou ceci ou cela. Ça m'a toujours prodigieusement agacé, ça me paraît une espèce d'appel du pied qu'on fait beaucoup trop souvent et qui ne correspond à rien. Ou on raconte quelqu'un qui va au Vietnam et qui lutte contre. Ou alors on la boucle. Mais c'est le plus difficile de ne pas faire intervenir d'éléments.
Oui, c'est ça. Vous êtes d'ailleurs, même sur le plan du décor qui les entoure, même sur le plan de l'environnement, à un moment, vous décrivez quand même un peu un paysage ou un endroit, mais pas tellement. C'est-à-dire que finalement, les gens qui sont là, vous êtes exigeante avec vous-même par rapport à eux. vous ne cédez pas aux facilités de l'environnement, de la situation, etc.
Non, c'est-à-dire que le décor, enfin, les décors ou les zones n'interviennent que dans la mesure où ça peut agir sur leur amour. Et même quand Édouard voit ce décor qui est le petit jardin, les arbres, les ombres du jardin, c'est uniquement parce qu'il pense que cette image ce sera celle qui lui restera de leur passion, si jamais un jour elle le quitte. Tout doit contribuer à l'action. Autrement, oui. Ça me paraît des diversions.
Bien sûr. Mais c'est ça, d'ailleurs, moi, je vous dis, c'est ça que j'ai, que personnellement, je trouve le plus étonnant dans la réussite du livre, c'est que c'est vrai qu'on part de situations conventionnelles, que presque toujours, on dit, ah bon, bah oui, c'est comme ça d'habitude, hein, et que sans aucun appel extérieur, peu à peu, il y a des petits accidents qui font que ça se personnalise et que ça n'est plus conventionnel, que ça devient ça, réellement, ce que vous avez voulu. Mais ça se passe, en effet, sans aucun recours à des méthodes ou... C'est un livre sans aucun truc, ni d'écriture, ni de composition, je crois.
Toute la vie des gens qu'on rencontre n'importe où, c'est une vie conventionnelle. Il se passe des choses simples. Si on les raconte comme un fait divers, c'est toujours extrêmement simple. Mais je crois que c'est comme vous qui disiez que l'important, c'était le lieu commun auquel on donne du relief.
Et alors, ce lieu commun, ça vous amène parfois jusqu'à des choses un peu paradoxales qui pourraient être des facilités et qui sont plutôt, selon moi, mais enfin, c'est vous qui allez me répondre si vous le voulez bien, qui sont plutôt des interrogations. C'est-à-dire que, enfin, j'exagère exprès, vous dites, par exemple, le théâtre est vide. Ou plein. Vous dites l'objet est beau, ou laid, la personne est triste, ou gay. Enfin, je veux dire que une affirmation, vous la repoussez tout de suite et vous donnez le contraire de l'affirmation. Alors, ça finit par provoquer un peu un doute chez le lecteur, une ambiguïté constante.
Parce que je pense aussi que la vie est à la fois conventionnelle, apparemment très simple, et terriblement ambiguë selon le regard de... Y a pas, la vie n'existe pas, la vie c'est ce qu'on en voit, parce qu'on en... C'est un livre, à mon sens, assez optimiste. Je m'en suis rendu compte après. Tout à fait optimiste et presque un rêve. Finalement, tous ces gens s'aiment. Ils sont romanesques, ils s'aiment. Les gens autour d'eux ne sont pas des voyous. Ils ne sont pas des voyous dans le sens moral. Ils ne sont pas des gens bas du cœur, ni rien.
Ah non.
Et finalement, c'est un livre extrêmement optimiste.
Il est optimiste parce qu'effectivement, les gens n'ont pas l'occasion de se montrer vils. Il n'est pas tellement optimiste parce que les rapports de force, finalement, sont destructeurs. Enfin.
Ça, oui, mais ça, c'était un petit peu mon propos, c'était de montrer à quel point les rapports dits amoureux se transforment très rapidement, même avec des gens bien, dans des rapports de force très très vite. Et c'est ça l'horreur.
Et oui.
L'essence de la propriété.
Béatrice se pencha à la fenêtre, regarda le jardin noirci par l'hiver, puis revint vers sa console et y attrapa la bague. Elle la fit sauter dans sa main et la leva une fois de plus devant la lampe. Oui, c'était bien un blanc-bleu. Sa perspicacité était sans défaut à ce sujet. Et il devait bien être de 30 carats. Édouard l'avait rapporté, l'air enchanté de lui-même tel un roi mage. Mais pour la première fois de sa vie, Béatrice avait dû simuler la joie en ouvrant un écrin. Jusque-là, les bijoux lui avaient toujours fait plaisir, comme un dû. Un impôt prélevé par elle sur chacun de ses amants riches, lesquels d'ailleurs n'avaient pas été les plus nombreux. Édouard, devenu dispendieux grâce à ses contrats américains, ne faisait donc que suivre leur exemple et leur ressembler. Seulement, c'était bien la première fois qu'Édouard ressemblait à un autre, à un des autres. Et elle en restait désemparée, presque triste. Il lui avait offert une chose pour elle seule, une chose qu'elle pourrait conserver après lui, s'il y avait un après lui. Une chose dont elle serait la seule à tirer plaisir. C'était le cadeau d'un homme à une femme, cadeau somptueux, ruineux, plus que gentil. Et elle se demandait pourquoi elle lui préférait un week-end à Saint-Germain-en-Laye ou un disque d'opéra, ou même un chandail. N'importe quoi, enfin, qu'elle aurait pu partager avec lui. Pour une femme nantine à passer comme Béatrice, un bijou était une trace. Et une trace, c'était ce qui reste, après, sur des plages vidées par le temps. Et Béatrice n'imaginait plus la vie sans Édouard. « C'est la mauvaise heure, maintenant, » pensa-t-elle en reposant la bague. « Cette heure me déprime. C'était la fin de l'après-midi et pendant 2 mois, presque 3, elle avait été généralement à ce moment-là au chevet de Joliet. Au milieu de ses rendez-vous multiples, futiles ou professionnels, elle avait toujours préservé ses 2 heures. Et elle continuait machinalement, même maintenant que Joliet était mort. Elle revint vers la fenêtre, appuya son front contre la vitre froide et secoua la tête. Elle devenait folle. Depuis quand le fait qu'un homme se ruine pour elle ou manque de le faire était-il une preuve de désamour? Béatrice n'était pas loin de là habituée à l'introspection, n'ayant jamais éprouvé que des sentiments frêles, aussi prompts à s'évanouir qu'à naître et sans aucun commentaire de sa part. Elle s'ennuyait à cette analyse imprévue. Elle se déplaisait. Le soir tombait. Elle étendit le bras et alluma la lampe. La lumière la rassura d'un coup. Et elle se redressa, s'assit sur le bord de son lit et posa les pieds sur la moquette. « Ce serait bien le diable, » dit-elle à voix haute et avec un élan de gaieté, une ironie acerbe tout à fait indépendante d'elle-même, ironie qu'elle avait toujours eue, mais qu'elle avait toujours refusé d'entendre car elle l'aurait empêchée d'arriver. C'est avec une amère gaieté donc qu'elle ajouta « Ce serait bien le diable que pour une fois que j'aime quelqu'un, cela ne lui fasse pas plaisir. » Édouard rentrait, il courait vers elle, et il n'était plus question de désinvolture. Il la serrait dans ses bras et lui disait qu'il avait vu défiler une série de mannequins inertes sur un écran, que pas une de ses stars n'avait le quart de sa beauté, qu'il avait passé l'après-midi à rêver d'elle. Puis il la fit rire. Il racontait ses expériences d'auteur dramatique livrées au cinéma avec une dérision à son propre égard des plus déconcertantes. À l'entendre, c'était toujours sa naïveté, sa sottise et son manque d'autorité qui provoquaient les complications et les désastres. Et Béatrice, habituée à entendre les hommes de son sérail évoquer leur succès, leur ironie et leur intelligence, trouvait un charme fou à ces récits masochistes. Pourquoi donc avait-elle été si triste tout l'après-midi? De quoi se plaignait-elle? Édouard la serrait contre lui, suppliait qu'il dîne là tout seul. Édouard l'aimait, le lui disait, et lui demandait de faire l'amour avec le même désir et la même fièvre inapaisable. Plus tard, bien plus tard, allongés l'un près de l'autre, ils échangeaient des mots glissants, doux, soyeux et plats, des mots d'amour comblé, des mots au travers desquels inconsciemment ils se remerciaient d'être parvenus ensemble à cette indifférence heureuse et provisoire de leur corps. Édouard avait mis un disque sur le pick-up au biais du lit, et il chantonnait en même temps que Frank Sinatra, la tête enfouie dans les cheveux de Béatrice. « Et ton vieil air d'opéra, dit-elle, on ne l'entend plus. » Le vieil air d'opéra, c'était leur musique à eux, l'air par lequel, sans un mot, ils se prévenaient l'un ou l'autre de leur désir naissant, l'air sur lequel ils avaient fait l'amour tout l'été et tout le printemps, l'air qui les avait menés jusqu'au fête du plaisir et de la musique, grâce à cette chanteuse italienne et à sa voix superbe, l'air qui avait été si longtemps pour eux un signal d'incendie et une récompense. « Je vais le racheter, si tu veux, » dit Édouard, demi-assoupi. « Le disque est tout rayé. »« Tant mieux, » dit Béatrice. « On commençait à s'en lasser, non? Tu ne trouves pas ?»« Si, » dit vaguement Édouard, de plus en plus enfoui dans son parfum, sa chaleur et son cou. « Si, c'est vrai. On l'a beaucoup entendu. » Il s'endormait. Il était bien. Il ne pouvait pas savoir que Béatrice, elle, avait brusquement rouvert les yeux. Et que la question qu'elle lui posait en était vraiment une.
Mais quand je dis que c'est un livre optimiste, j'ai lu une chose dans Malraux, qui m'a assez fait lire le dernier livre. Il dit qu'il y a des auteurs qui aiment leur héros, sur son amoureux, épris, ici de Balzac par exemple, et puis certains qui sont romanesques avec leur héros, ou Stendhal, etc. Et puis il y a des auteurs qui ont un point de vue pessimiste, comme Flaubert, sur leur héros, qui n'ont... Je dirais personnellement, je suis dans l'école optimiste, je serais capable de parler longuement, de m'intéresser à des gens que j'aime pas, voilà. Ce qu'on appelle à des héros que j'aime pas. J'ai jamais pu écrire... quelqu'un de minable ou de moche, comme on dit.
Oui, ou alors vous abandonneriez tout de suite. Enfin, je veux dire,
j'abandonnerais, oui. Je
ça serait une impasse.
Je manquerais d'élan pour poursuivre. Je crois que c'est une forme d'optimisme ou de romanesque.
Mais par affection pour vos personnages ou parce que vous en avez besoin vous-même?
Je crois que j'ai besoin d'avoir d'affection pour mes personnages.
Joliet la regarda un instant et ses yeux se troublèrent. Je te remercie, ma chère Béatrice, dit-il. Tu es en effet la seule personne assez barbare ou assez tendre pour ne pas appeler une ambulance, police, secours ou Dieu sait quelle horreur. À sa propre surprise, Béatrice sortait de ces conversations non pas déprimée, mais étrangement revigorée. D'ailleurs, la précision, la froideur, l'inéluctable de cette situation ne lui faisait en rien oublier les petites querelles, les vagues tempêtes qu'elle affrontait à ce moment-là. Elle ne se disait jamais que, par comparaison, ses agitations étaient ridicules. Là, au contraire, là était la vie, dans ses remous mesquins et violents, ses limons de vanité et de basse ambition, et elle était bien sûre que Joliet regrettait amèrement de ne plus pouvoir s'y agiter. Cette mort si proche ne rendait pas dérisoire sa vie à elle, au contraire, elle la colorait. Et le mépris même que lui inspiraient certains agissements, certaines réactions parisiennes, devenait plaisant à ressentir. Et enfin, quand Édouard la prenait dans ses bras, quand il l'embrassait ou quand elle le sentait trembler contre elle la nuit, de fatigue ou de désir, elle pensait parfois au tremblement éperdu et solitaire d'un autre homme à quelques rues de là, cherchant à ne pas renverser une ampoule sur son oreiller. Oui, comme dans les feuilletons, l'amour était bien à l'opposé de la mort. Bien sûr, elle aurait un jour elle-même à affronter cette plage déserte et incolore qui vous mène à la mort, à la mer, à rien. Mais elle ne se faisait aucun souci. Elle le savait depuis toujours, elle mourrait ou en scène, ou tuée par un jaloux, ou écrasée dans une voiture de sport contre un platane. En attendant, elle ne répondait pas aux questions d'Édouard sur Joliet, car ce dernier le lui avait défendu. « Édouard est trop sensible, avait-il dit, trop proche de moi peut-être, trop humain. Il serait et il me rendrait triste. Je préfère mille fois ta compagnie. » Et Béatrice, souriant, avait pris cela pour ce que c'était d'ailleurs un compliment. « Que dois-je faire de lui ? » avait-elle demandé un peu plus tard, toujours au sujet d'Édouard. Joliet avait soulevé une main fataliste. « Oh, de toute manière, avait-il dit, il n'est pas à plaindre, il t'aime. Et actuellement, il t'a. » « Il m'est très attaché, » dit Béatrice, qui, à son grand étonnement, se sentit rougir de cette phrase un peu mièvre. « Il verra bien, » dit Joliet, « pour te dire la vérité, tout me paraît enviable chez ce jeune homme. Je donnerais même cher pour avoir un affreux chagrin d'amour. » Mais après avoir refusé d'un geste de répondre au coup de téléphone que lui annonçait un maître d'hôtel aussi impavide que lui-même, il s'était retourné vers Béatrice avec curiosité. « Et toi, » avait-il dit, « tu l'aimes enfin ?» La question avait pris Béatrice de court, elle était même restée ébahie un instant, presque indignée. « Mais enfin, » avait repris Joliet amusé, « je ne te dis pas une grossièreté, je te demande si toi aussi tu l'aimes, ton amant. »« Ça va vous paraître extravagant, » dit Béatrice, « mais je ne me suis jamais posé la question. » »« Tant mieux, » avait conclu Joliet, « à mon avis, il est déjà très bête de se demander si quelqu'un vous aime, et il est encore plus bête de se demander si nous, nous l'aimons. » Et ils avaient parlé d'autre chose. Mais en marchant dans la rue, en rentrant chez elle, cette pensée avait continué à troubler l'esprit de Béatrice. Aimait-elle Édouard ? Oui, en un sens, elle l'aimait plus que n'importe quel autre homme qu'elle ait connu. Était-elle amoureuse de lui ? Oui, en un sens, la nuit, quand elle lui disait « je t'aime », ce n'était pas uniquement son corps qui répondait. Mais serait-elle malheureuse sans lui ? Là résidait la question, la vraie. Celle qu'elle ne s'était jamais posée. Édouard partant, Édouard ne l'aimant plus, cela était inimaginable. Mais pourquoi ? Parce qu'elle manquait d'imagination ou parce qu'il avait rendu cet imaginaire-là impossible ? En se livrant ainsi, pieds et poings liés, n'avait-il pas jeté sur elle un filet autrement dangereux que celui du doute ou de l'habituelle inquiétude amoureuse ? En acceptant ses trahisons tout en s'en désespérant, ne l'avait-il pas amené, elle, à trouver sans charme et sans goût ses incartades futures? Bref, en se déclarant à la fois mortellement épris d'elle et mortellement sûr qu'elle le quitterait un jour, n'avait-il pas provoqué chez elle, par un cruel et long défi, la tentation de le garder? Et de le garder dans cet état, à vif, accru et terrifié. Jamais, au grand jamais, un homme n'avait devant elle jeté les armes à ce point, ni si tôt, ni avec autant d'ostentation, ni avec autant de plaisir à se rendre. « Il agit en Machiavel, » pensa Béatrice, non sans sourire, car l'idée de toute habileté venant d'Édouard vis-à-vis d'elle lui semblait du plus haut comique. Néanmoins, une méfiance habitait en elle à présent. quelque chose comme une méfiance et une crainte, une très inattendue et très exquise crainte.
Je me souviens qu'il y a quelques instants, Françoise Sagan, vous avez dit que vous trouviez que finalement c'était un livre optimiste parce que les gens, dans l'ensemble, s'y conduisaient bien.
Oui.
Et alors je vous disais ça parce que justement nous venons là de quitter Joliet, qui est peut-être le personnage qui a le plus de noblesse parce que c'est celui qui est dans la situation évidemment la plus difficile,
oui,
qui est celle d'accueillir la mort. Et que, enfin, je crois que si on peut se permettre de demander à un auteur s'il a aimé ses personnages, je crois que Joliet représente justement une certaine manière d'être que vous admirez.
Oui, en plus, c'est aussi une vision optimiste de la,
oui,
de la chose, parce que le nombre de gens que je connais qui sont morts ou ont été atteints par le cancer, qui sont morts d'une manière absolument terrifiante, enfin, sinistre, coincée, hurlante, abominable, quoi, cris, chuchotement. Et c'était toujours assez épouvantable, et j'ai voulu montrer une manière de mourir, qui est un petit peu spéciale à lui, mais qui était une manière optimiste de mourir.
Mmh. Je suis un petit peu surpris par le tour qu'a pris cet entretien, parce que au départ, je m'étais dit quand même, c'est un milieu très brillant, un peu superficiel, celui de cette espèce de tout Paris avec les acteurs en vogue, les journalistes qui téléphonent, l'auteur à succès dans des théâtres d'avant-garde, enfin tout ce milieu qui est à la fois comme tous les autres, très riche, très pauvre, très faux, très vrai, on l'a complètement abandonné pour parler des personnages complètement dans leur nudité et dépouillés de tout cet ornement, cet artifice. Est-ce que c'est vous qui m'avez entraîné ou moi qui vous ai entraîné?
Ben, je sais pas, nous sommes entraînés l'un l'autre. En fait, ces gens qui ont réussi, enfin, là, lui et elle, je les ai pris réussis. Ayant réussi, justement pour que leur échec ou leur préoccupation de carrière n'intervienne pas, ne soit pas un frein ou une excuse pour penser à autre chose que leur passion. Donc c'était un peu presque une assaise, finalement, de les mettre réussis. Et puis ce milieu autour était assez amusant parce que c'était une histoire d'amour vrai dans un milieu où tout est plutôt faux.
Oui.
Donc c'était assez amusant par opposition. Et en plus, c'est un milieu qui ne me passionne pas. J'étais projetée là-dedans brutalement et j'ai plus de souvenirs de... Enfin, les premiers temps de ce qu'on appelle la célébrité, enfin, de souvenirs de blessants que des souvenirs, je veux dire blessants et plutôt ridicules, si vous voulez.
Mmh.
Alors, bon, c'est un milieu qui a des qualités, parce qu'effectivement, ils ont un peu des saltimbanques, ils ont un côté. Ils vont tout à fait au jour le jour, ils sont un peu écorchés, etc. Ils sont quelquefois donc intelligents et brillants. Et c'est un milieu qui a les pires défauts, parce que la valeur humaine se juge au succès et que c'est une aberration totale. D'autre part, c'était tellement exagéré ce qui m'est arrivé que ça m'empêchait d'avoir ce qu'on appelle une grosse tête.
Mmh.
Le ridicule de la chose m'a frappé avant le charme.
Et alors, vous avez pris la fuite?
J'ai pris la fuite délibérément. Enfin,
c'était Le Lit des Fées dans l'émission Un livre, des voix sur France Culture, diffusée le 2 mai 1977. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.